partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir deux professeurs qui ont traduit un très beau livre qui s'intitule « Amérique du Nord, art premier ». Je reçois donc Joël Rotkowski et Nelsia Delanoë, elle-même aussi collaboratrice et co-traductrice de ce livre. Alors, mesdames, je suis particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que lorsque nous nous sommes rencontrés, vous vous en souvenez, dans les salons de France-Amérique il y a quelque temps, nous avions parlé du livre qui venait de sortir, c'est-à-dire de votre livre, « Amérique du Nord, art premier » chez Albin Michel. Et je dois dire que vous me l'aviez présenté de façon très agréable. Et lorsque je l'ai reçu, j'ai eu un petit peu, je ne vous le cache pas, un véritable coup de foudre. Parce que je trouve que c'est un livre très dense. Alors j'aimerais, avant que nous échangions bien sûr sur ce livre et que je vous pose un certain nombre de questions, j'aimerais évidemment que vous vous présentiez l'une et l'autre. Madame Rotkowski.
Donc je m'appelle Joël Rotkowski, donc je suis passionnée par les cultures amérindiennes depuis une vingtaine d'années, surtout donc les Indiens des États-Unis, et j'enseigne actuellement à l'École des hautes études en sciences sociales dans le département anthropologie et histoire. Ce livre, nous l'avons choisi avec Nelsia Delanoë,
ici présente,
qui va se présenter dans un instant, parce que nous avons trouvé que c'est un livre d'histoire de l'art, mais pas comme les autres. Il a une dimension beaucoup plus profonde que certains livres que l'on trouve dans le même domaine. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous attaquer à cette difficile traduction.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Nelsia Delanoë. Je suis historienne, écrivain et je travaille sur l'histoire des peuples autochtones d'Amérique du Nord depuis très longtemps. Et souvent avec Joël d'ailleurs. Et un jour, je suis tombée sur ce livre que j'ai commencé à lire. Et j'ai eu l'impression qu'enfin je comprenais quelque chose à l'histoire des arts, comme on dit, des arts premiers ou des beaux-arts ou de l'artisanat. Voilà, toute la question était posée. Mais qu'enfin je comprenais quelque chose à cette production extraordinaire venue d'Amérique du Nord. J'en ai donc parlé avec Joël et nous avons eu l'impression toutes les deux qu'il était urgent que ce genre d'analyse, ce genre de réflexion aussi, c'est-à-dire à la fois sur l'histoire, sur l'art, sur l'ethno-histoire de l'art, soit à la disposition de lecteurs francophones. Car jusque-là, et les livres abondent, ce sont des livres très techniques, très abstraits, ennuyeux, souvent, bien que passionnants, si je puis dire, un peu poussiéreux, alors que c'est un sujet vivant. C'est l'art de ce livre aussi, c'est de rendre ces arts-là vivants jusqu'à aujourd'hui, car ils sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez, tout était remis en cause. Ce n'était pas que les musées, ce n'était pas que le passé, ce n'était pas que des arts perdus. C'était l'histoire en marche.
C'est un livre, vous avez déjà très bien présenté la chose, c'est un livre qui est en effet qui est important. Votre préface, je dois dire, est magnifique. J'avais oublié que c'était l'exergue avec François Cheng. Nous allons la lire d'ailleurs, cet exergue. La finalité de la beauté artistique en son état le plus élevé, plus que plaisir esthétique, elle est de donner à vivre. François Cheng, quand même, de l'Académie française où nous sommes en ce moment. Donc il ne faut pas l'oublier. Et je dois dire que votre préface, intitulée « Portée par la beauté », est absolument splendide. J'ai eu le plaisir de la relire trois fois et il faut la relire, on la goûte, c'est un hommage à la langue française, nous sommes là pour cela. Et attention, vous êtes sous l'aile protectrice, j'ai noté ça tout de suite, de Claude Lévi-Strauss, bien entendu, qui annonçait, disons-le quand même, lisons un tout petit peu votre préface, déjà en 1943, la reconnaissance esthétique des chefs-d'œuvre de l'art amérindien, en 1943, et je cite, « L'époque n'est sans doute pas lointaine où les collections de la côte pacifique nord-ouest émigreront des musées d'ethnographie pour prendre place dans les musées d'art. » Alors, nous avons beaucoup de questions à vous poser, et vous nous avez parlé un tout petit peu de votre parcours professionnel, vous nous avez présenté un petit peu, mais de façon synthétique évidemment, très synthétique ce livre, l'hommage à Lévi-Strauss, nous faisons de le faire. Il y a quand même quelque chose qui me chicote. N'oublions pas l'extraordinaire histoire de la Nouvelle-France, le rôle que les francophones ont joué. Et dans ces questions artistiques, est-ce que les francophones, ce sera peut-être ma première question, est-ce que les francophones apparaissent dans l'histoire, aujourd'hui, hier? Est-ce qu'il y a des réseaux, des marchands, des canaux? Là, vous voyez, c'est une question auquel vous attendiez peut-être pas. Des canaux entre l'Amérique du Nord et la France, etc. Je vous laisse répondre.
Des canaux marchands, oui, très tôt. D'ailleurs,
Tôt, c'est-à-dire quand?
Dès le début de l'installation des Européens et des Français dans ce qui est aujourd'hui le Canada, par exemple, les grands navigateurs, les grands marchands expédient en France des objets rares pour les faire connaître.
Donc à partir du, vous diriez...
Début 17e. Fin 16e.
Ça, c'est important. Ça.
Et comme ils essayent de contracter des rapports d'amitié et de commerce avec les peuples autochtones, ceux-ci envoient au roi des objets magnifiques dont ils font cadeau au roi de France. C'est eux qui offrent des cadeaux au roi de France.
On les a où, ces objets, aujourd'hui?
Si je puis ajouter un détail peut-être d'intérêt pour les auditeurs, c'est que justement, au Quai Branly, une exposition des cabinets de curiosité qui va inclure beaucoup de ces objets dont Nelsia disait qu'ils ont été offerts ou qu'ils ont été acquis par les marchands pour les expédier à nos rois.
Ah, ça tombe à pic alors, ça tombe.
Et un cabinet de curiosité.
Donc le Quai Branly, de quand à quand, vous disiez?
De fin février jusqu'à mi-mai.
Fin février 2007 à mi-mai 2007, enfin je précise, allez, parfait.
Et dans les cabinets de curiosité, vous aviez par exemple des magnifiques peaux de bison peintes, incisées, qui contaient des histoires elles-mêmes. C'était des supports historiques ou ce qu'on appelle des wampum, c'est-à-dire des magnifiques ceintures en coquillages qui étaient en fait des archives, c'est-à-dire suivant la teinture des coquillages alternés, mauve et blanc, et suivant la disposition des coquillages et l'alternance, on avait là un traité de paix ou un traité d'amitié ou un contrat d'échange. Et ces curiosités, comme on les appelait à l'époque, figuraient dans les cabinets de curiosités avec des camées, avec, j'ai vu l'autre jour, le doigt d'un Français coupé, avec...
Doigt d'un Français coupé.
Oui, enfin, avec des tas de choses. On découvrait l'humanité autre.
Mais donc en France, nous avons énormément de ces objets.
Énormément.
Énormément. Et qui sont concentrés, alors dans quels sont les principaux musées où l'on retrouve ces objets dans l'ensemble ou villes de France
Alors, bon, l'ancien musée de l'Homme qui a transmis sa collection au musée du Quai Branly. N'oublions pas qu'au Louvre, il y a une centaine de chefs-d'œuvre des arts premiers qui ont été installés récemment, en l'an 2000 en fait, ça fait déjà maintenant quelques années. Et que parmi ces objets, on trouve pas mal d'objets d'Amérique du Nord.
Et à La Rochelle.
Et à La Rochelle.
Musée du Nouveau Monde. Et là, il y a très belles choses sur la Louisiane. Très, très belles choses sur la Louisiane. Très peu connues, malheureusement. Et d'ailleurs, la France a oublié qu'elle a été une puissance coloniale aux Amériques.
C'est pour ça que je me suis permis de vous poser cette question, parce que ça m'est tout de suite venu à l'esprit, et c'est un peu aussi le sens de mon travail, de penser que vraiment les Français d'origine ont été les premiers, après les Indiens bien entendu, à couvrir le territoire nord-américain et sur un espace immense, le Mississippi, les Illinois, le Texas, etc. Donc c'est très important. Alors, deuxième volet de ma question, et on passera à autre chose bien sûr tout à l'heure, et aujourd'hui, que se passe-t-il entre le Québec francophone, ses objets historiques et les canaux marchands Alors, est-ce qu'il y a tout de même des gens qui ont du poids dans ce marché d'art?
Je voudrais juste ajouter un petit détail à ce que nous venons de dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de métissage entre Indiens et Français. Il y avait ceux qu'on appelait les coureurs des bois et qui avaient souvent des femmes indiennes dans les postes avancés de leurs explorations.
Trois femmes.
Absolument. Et que donc, il y a eu toutes sortes d'échanges, d'acquisitions, conversations, si l'on peut dire, aussi au niveau artistique entre Indiens et Français. Et qu'il y avait aussi les missions. N'oublions pas que les missions étaient très, très puissantes au Canada. Et que dans le cadre de ces missions, il y a une sorte de métissage, de syncrétisme, d'hybridation artistique qui s'est produite.
Donc, ça voudrait dire que les religieux ont peut-être joué un rôle, même certainement, un rôle pour influencer ou pour de guide à l'occasion.
Parfois déculturation et parfois d'acculturation positive, dans le sens il y a eu par exemple des motifs floraux qui étaient très en vogue dans l'émission, qui ont été enseignés aux artisanes indiennes, qui sont passées d'un certain mode de représentation à des motifs beaucoup plus inspirés de nos broderies fleuries traditionnelles.
Mais alors aujourd'hui, vous avez encore des canaux francophones ou pas ?
Il y a des musées magnifiques au Canada.
Au Québec, d'abord, on a des musées extraordinaires qui se sont d'ailleurs beaucoup, beaucoup modifiés récemment sous l'effet des négociations très importantes entre les peuples autochtones et les conservateurs et l'État. Il n'est plus question que ce soit l'État qui dise quel est le sens des objets dans les musées. C'est les peuples autochtones eux-mêmes qui ont demandé et obtenu de par la loi d'une part restitution d'un certain nombre d'objets sacrés.
Qui ont été restitués.
Restitués à ceux qui le demandent s'ils peuvent prouver que ça vient de chez eux, ce qui souvent n'est pas très difficile, car on a le tracé, si je puis dire, de ces objets. Comme dit Joël, c'est une conversation parfois violente, parfois amicale, parfois ambiguë. Et donc, certains objets sacrés, bien sûr, ont été restitués. D'autres objets considérés comme dangereux à cause de leur pouvoir curatif ont été enlevés à la demande de ces responsables de différents groupes autochtones, bandes ou tribus.
Est-ce que vous pourriez expliquer un tout petit peu à cause de leur pouvoir curatif, c'est-à-dire pour nos auditeurs
Certains objets ont un pouvoir curatif.
Ah, oui.
Donc,
comme quoi, par exemple, donner un exemple de...
Je vais vous donner l'exemple de la pipe sacrée des Indiens des plaines. Il y a donc le fourneau de la pipe et puis le calumet. Et on ne peut pas rassembler les différentes pièces ensemble parce que la pipe, quand elle est totalement recomposée, a un pouvoir extraordinaire. Et donc, il est totalement interdit dans un musée de présenter cet objet dans sa totalité.
Vous y croyez à ce pouvoir extraordinaire ou pas? Ou tout au moins, est-ce que certains éléments vous laissent penser qu'il pourrait tout de même y avoir des manifestations?
C'est un grand dilemme actuellement parce qu'effectivement, il y a deux prises de position. Comme Nelsia venait de le dire, maintenant qu'il y a des conservateurs indiens qui travaillent dans les musées, ils ont un regard sur l'objet. L'objet n'est pas inanimé, il est animé. Et l'objet a un pouvoir. Donc, il faut le traiter d'une certaine façon. Par exemple, il faut nourrir les cachinas.
Les cachinas, ce sont les
poupées sacrées des Indiens Pueblo du Sud-Ouest qui représentent à la fois les ancêtres et la communication avec le surnaturel. Donc, il faut les nourrir d'une certaine façon. Il faut les traiter avec un certain respect. Alors, bien sûr, quand la conversation s'engage entre des conservateurs non-indiens et des conservateurs indiens, on a parfois une certaine incompréhension.
Donc, dans certains musées, on pourrait aller jusqu'à nourrir certaines poupées pour satisfaire tout le monde, disons.
On pourrait en tout cas le demander ou le suggérer.
De toute façon, nourrir est encore un terme qui demande beaucoup
symbolique.
De précision. Ce qui est important, c'est que tous les objets ne sont pas sacrés. Tous les objets ne sont pas curatifs. Il y a aussi des objets plus neutres. Mais ces objets ont servi, à cause de leur talent de fabrication, à cause des motifs qu'ils véhiculent. Et les motifs appartiennent à un groupe. Ils ne tombent pas du ciel, ils se transmettent, c'est un héritage, c'est un patrimoine. Donc ces motifs et illustrations, si vous voulez, appartiennent à un groupe, lequel groupe communique avec d'autres groupes, avec les ancêtres, avec les esprits, avec le cosmos. Donc si vous voulez, c'est tout un ensemble de pouvoirs diffus, spirituels, et finalement qui donnent l'énergie à un peuple d'exister. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est autre chose.
D'ailleurs, il y a quelque chose, et ça, nous approchons de la fin de la première partie de cette émission. C'est vrai qu'il y a ce phénomène d'énergie qui est très étonnant. Comment des peuples colonisés ont réussi à traverser tant de malheurs, de difficultés, et que l'univers culturel permet de réenflammer tout ça. On l'a vu un peu dans le cas du Québec, qui n'est pas un peuple... indien, si vous voulez, peuple d'origine française, mais où les aspects culturels ont énormément aidé, compté pour ce qu'on appelle en anglais le revivals, c'est-à-dire le renouveau, quoi, d'une certaine façon, etc. Donc la reprise des roots, des racines, si vous voulez, sur la quille française, donc, mais je fais exprès d'utiliser deux termes. Donc il y a quelque chose vraiment de tout à fait fabuleux dans ce traitement de l'énergie pour des peuples qui vraiment reviennent de très loin quand même. Voilà la fin de cette première partie de notre émission. Le livre donc de Janet Berlot et de Ruth Phillips, Amérique du Nord, art premier chez Albin Michel, traduit à merveille par Joël Roskowski et Nelsia Delanoé. Nous allons bien entendu continuer dans un instant cet entretien privilégié.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Deuxième partie de l'émission où je reçois aujourd'hui Joël Roskowski et Nelsia Delanoé, traducteurs d'un très très joli livre, très beau livre, Amérique du Nord, art premier chez Albin Michel. Et justement, n'oublions pas que ces émissions peuvent être évidemment téléchargées dans notre médiathèque. Justement, cher Joël Roskowski, quelle est la réception du livre actuellement en France et au Québec?
Alors, la réception en France est excellente. On a l'impression vraiment que même dans le cadre du musée du Quai Branly, dans les universités, il y a un grand intérêt pour ce livre parce qu'il a une dimension historique. Et ça n'est pas un livre uniquement sur la culture matérielle, c'est un livre sur les cultures vivantes et sur le lien entre l'art et la vie. Sur justement ce qui est vital dans la perpétuation de cet art, parce qu'il a transmis une énergie et il a été un facteur de survie pour ces populations. En ce qui concerne la réception au Canada, et je parlerai plus spécifiquement du Québec puisqu'il s'agit d'une traduction en français, les réactions sont toutes fraîches puisque le livre vient d'arriver au Québec et c'est un plaisir de dire que les Québécois accueillent ce livre avec enthousiasme parce que justement, ils connaissent les auteurs, mais ils sont heureux tout d'un coup d'avoir un texte en français.
Ah oui, c'est
surtout un texte de cette intensité, de cette densité, et aussi un texte qui, à travers d'abord une iconographie extraordinaire,
j'ai remarqué,
transmet non seulement un savoir-faire, mais un savoir que ces peuples mêmes risqué de perdre et ont réussi à recapter, particulièrement depuis, si vous voulez, le mouvement de réappropriation de leur culture qui s'est enrichi depuis les années 70-80, particulièrement 70-80.
Quelle évolution depuis les années 60, quelle évolution hein.
Et donc aujourd'hui, vous avez tellement d'artistes contemporains qui vivent à Toronto, à Montréal, à Vancouver, à New York, enfin, et qui à la fois se réclament de leur tradition, mais de leur modernité, qui sont à la fois urbains, qui vont à la fois sur la réserve, qui travaillent avec leur famille, leurs aînés, et qui en même temps sont dans la vidéo, sont dans les installations, sont dans le cinéma, bien sûr le cyber, de toutes sortes.
Quelles sont les villes où ces artistes indiens, amérindiens, sont les plus dynamiques, les plus appréciés, les plus mis en vedette, etc. Quelles seraient les quelques villes, je présume nord-américaines, bien entendu?
Beaucoup de villes, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de villes où il y a des instituts d'art qui se sont créés et qui ont un rôle particulièrement important. Bien sûr, New York, comme on vient de le dire.
New York vient en tête.
Peut-être pas, il y a beaucoup Santa Fe. Santa Fe, justement, dans le sud-ouest, parce qu'il y a une grande tradition artistique et parce qu'un des instituts d'art les plus célèbres, le Institute of American Indian Arts, a été créé dans les années 60. Justement, on revient bien à cette espèce de...
À Santa Fe.
À Santa Fe, oui. Et alors au Canada, on trouve à peu près l'équivalent avec peut-être 20 ans de décalage. Ces instituts d'art se sont créés aussi bien dans l'Est qu'ensuite à l'Ouest, à
alors,
Regina,
dans l'Est,
par exemple.
Ça serait,
on
Montréal.
Trouve Montréal, beaucoup.
Montréal.
Toronto, Hull.
Montréal est plus fort que Toronto ou non, pas vraiment.
Moins, je
plutôt
pense.
Moins.
Toronto
c'est Toronto qui est la ville au Canada où il y a le plus...
Et le Grand Nord.
Oui.
Alors, dans le Grand Nord, un phénomène extraordinaire, c'est l'installation de coopératives. Des Inuits, qu'on appelait les Esquimaux, se sont organisés en coopérative, ce qui a permis, entre autres, à beaucoup de femmes, parce que le rôle des femmes dans la transmission...
C'est une question que je voulais vous poser, justement. Le
transmission
rôle des femmes.
Et création artistique est essentiel. Et chacun a plutôt son domaine, si vous voulez. La sculpture serait plutôt masculine, les fibres végétales et soupes seraient plutôt féminines. Ouais. Et dans le Grand Nord, des coopératives se sont organisées, les gens se sont réappropriés les motifs, les techniques, et ont vendu directement de la coopérative aux galeries. Et donc, ça a eu un succès fou.
À partir de quelle année, ça, à peu près, on pourrait dire, pour que nos auditeurs soient bien au courant?
Soit 1970.
C'est ça. Donc, les coopératives se sont vraiment développées.
Avec l'aide du gouvernement canadien, au départ.
Dire,
ah oui, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est le Nunavut.
Oui,
donc, si vous voulez, il y a un double, triple rebondissement. Et ça atteint des prix faramineux. C'est-à-dire que ces arts premiers, comme on dit, je ne sais pas comment il faut les traduire, sont devenus sur le marché de l'art, comme on dit aussi, très prisés.
Et quels peuvent être, donnez-nous quelques exemples de prix qui valent la peine d'être entendus.
Ben, récemment, il y a eu la vente de la collection Lebel
à Paris.
Lebel, le prénom de Lebel
C'est Jean-Jacques Lebel.
Jean-Jacques Lebel, oui.
Donc à Drouot. Et les prix étaient tellement élevés que dans bien des cas, même le musée du Quai Branly peinait à acquérir les objets et que, paraît-il, que l'essentiel des objets ont été achetés par une fondation privée canadienne.
Ah là là. Et les prix allaient, les prix les plus forts
C'est absolument...
Je ne peux pas vous dire parce que ça me dépasse.
Fait, des prix énormes.
Des prix absolument colossaux.
Et vous comprenez cette explosion des prix? Est-ce que c'est compréhensible ou... est-ce qu'il n'y a pas encore là une sorte de bulle qui est en train de se former ou qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a certainement de la spéculation, il y a certainement de la passion aussi. Et après tout, on pense avec une certaine nostalgie à la passion de Claude Lévi-Strauss qui a découvert César dans les années 1940, avec aussi même plus tôt, dans les années 1920-1930, les surréalistes sont beaucoup intéressés à cet art, surtout l'art de la côte nord-ouest. On pense à Max Ernst, bien entendu, mais encore à bien d'autres. On pense même à Picasso. Tous ces arts avaient passionné ces artistes, les ont inspirés, et eux pouvaient acquérir ces objets dans des toutes petites galeries pour trois fois rien.
Les acheteurs, de quel pays viennent-ils les ceux qui vraiment sont les plus intéressés par la chose? J'ose pas dire passionnés, bien entendu, mais d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils viennent plutôt d'Amérique du Nord, plutôt du Japon ou d'Europe? D'où viennent-ils?
Alors, à Santa Fe, par exemple, justement, les objets sont presque inaccessibles déjà parce qu'il y a beaucoup de Texans et de Californiens.
Ah oui.
Donc, alors, au Canada, je pense que...
Ce sont les institutions.
Ce sont plutôt les institutions.
D'abord.
Alors, les Français dans tout ça, est-ce que... Il s'intéresse vraiment? Ah oui, il y a le musée de Rapaire quand même.
Pour les arts africains, oui.
Ah, c'est les arts africains, ça.
C'est ça. Mais bon, les grandes galeries et puis quelques collectionneurs bien informés, mais qui sont encore relativement peu nombreux.
Si vous voulez, quand Jacques Kerchache, qui était le conseiller du président Chirac, a eu l'idée de faire une exposition exceptionnelle sur les Taïnos, qui a eu un succès extraordinaire, car c'était un art...
C'était en quelle année, ça, si vous me permettez?
Oh, c'était 1985.
Ah oui, il y a longtemps
10,
déjà. Oui.
Très
longtemps.
Je
me souviens de cette...
Ça correspondait à une révélation d'un art, malheureusement, pratiquement effacé, caribéen, indien. Et comme le président lui-même était passionné par ces arts et qu'il connaissait Jacques Kerchache, si vous voulez, de fil en aiguille, la passion de l'un et le talent commercial et de marchand de l'autre a fait qu'on est arrivé de fil en aiguille au Quai Branly. Kerchache est mort avant, mais il a un amphithéâtre ou une galerie à son nom au Quai Branly.
Et le Quai Branly, c'est combien d'objets?
Un million d'objets.
Un million d'objets.
Oui, c'est considérable.
Il y en a beaucoup qui venaient du Musée de l'Homme.
Oui, bien sûr. Et également c'est du Musée de la Porte Dorée.
Mais très peu exposé, 3000 je crois maximum.
En ce moment, vous avez 3000 objets.
Ah, c'est ça à peu près.
Vous participez à quelque chose de formidable, hein, vraiment. Et je dois dire que ce livre, vous parliez tout à l'heure un peu d'énergie. Eh bien, vous savez, pour quelqu'un comme moi, le fait d'avoir reçu ce livre par rapport à d'autres livres, j'en reçois un certain nombre, il y a en effet une sorte d'énergie qui émane de ce livre, tant c'est vraiment une délectation. Vous êtes de très bonnes traductrices, dites-moi. Ça vous a pris combien de temps pour faire ce livre?
2 ans.
2 ans à 2.
Deux ans à deux,
mais enfin c'est quand même...
On faisait pas que ça, non.
Mais nous avons été heureuses d'avoir la réaction des auteurs qui nous ont parlé de « labor of love ». Et c'était vraiment...
Travail de l'amour.
Le travail de l'amour, voilà. Et donc, ça nous fait plaisir d'avoir comme ça un salut des auteurs qui sont heureuses, en fait, que ce livre soit disponible en français.
Alors, avant de passer à d'autres questions, peut-être encore un petit peu plus denses, la question que je voulais vous poser, parmi toutes ces œuvres, vos préférés se porteraient sur lesquels ?
Alors bon, justement, ce livre met en reflet l'université, l'unité et la diversité de cet art. Donc, il y a beaucoup de variations selon les régions. Alors, bien entendu, selon qu'on a fait des recherches sur telle et telle région, selon qu'on aime tel ou tel paysage, parce que c'est un art très inspiré du naturel et du surnaturel, selon que l'on aime un certain cadre, on va être porté vers certaines régions. Personnellement, j'aime beaucoup l'art de l'Ouest américain et l'art des Grands Lacs. Mais l'art qui a été reconnu le plus vite, le plus tôt en Europe, c'est bien l'art de la côte nord-ouest, avec les grands mâts-totems qui sont célèbres.
Vancouver.
Et Vancouver, voilà, c'est cela.
Ils sont presque devenus une icône du Canada, ce qui est quand même extraordinaire. Voilà, alors que cet art était interdit pendant très longtemps par la puissance coloniale de l'époque.
C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez...
Un retournement étonnant.
Un retournement étonnant. Et c'est, bon, bah, c'est
l'histoire.
La nature humaine, c'est l'histoire. C'est...
Écoutez, moi-même, suivant mon humeur, je vais plutôt avoir envie de regarder un masque de la côte nord-ouest.
C'est selon l'humeur. Hein. Oui. Vous n'avez pas un objet préféré ? C'est très dur.
J'en ai beaucoup, mais je n'en ai pas un seul. Non.
En tout cas, on peut conseiller quand même au lecteur d'aller regarder les peaux peintes magnifiques qui sont au Quai Branly. La France a une collection très, très importante.
Les peaux peintes.
Les peaux peintes.
Peaux de bison.
Les peaux peintes, peaux de bison, donc, qui sont en fait des histoires qui sont racontées. Parce que pour les Indiens des plaines, il y avait ce qu'on appelait les contes d'hiver, les winter counts, dans lesquels ils transcrivaient les éléments importants de l'année. Et donc, on avait une représentation visuelle du temps avec une sorte d'éclairage sur les temps forts de cette année. Donc, on n'avait pas l'année, par exemple, 2007. On avait l'année des étoiles filantes. On avait l'année de la comète. On pouvait aussi avoir, bien sûr, l'année de la famine, l'année du bison blanc. C'est chez les Indiens, donc, des grandes plaines.
Formidable. Mais ces peaux peintes, les plus anciennes, remontent à quand ?
Alors, elles sont très anciennes, elles remontent donc à une période qui a précédé donc la découverte. Et ensuite, elles se sont perpétuées avec, bien sûr, les matériaux qui étaient apportés par les commerçants. Cet art s'est perpétué jusqu'au placement dans les réserves, parce qu'après, c'était assez difficile, il n'y avait plus de bisons. Il n'y avait plus de grande chasse.
Les bisons ont disparu. C'était la...
Oh, écoutez, ils n'ont pas disparu tout seuls. Hein. Vous avez vu la taille d'un bison, quand même.
Non, ils ont disparu. Non, mais ce que je veux dire, ils ont été tués, massacrés. Ils ont disparu, il n'y avait presque plus. Vers quoi, la fin du 19e ?
Oh, avant.
Même avant.
Oh, oui.
Même avant,
ouais. C'était le but. C'était d'écraser les sioux et les cultures des plaines qui reposaient sur la culture du bison. Puisque le bison était à la fois sacré et utile à tout point de vue. Il permettait de se loger, de se vêtir, d'avoir des armes, d'avoir à manger.
C'était l'autarcie presque. C'était,
c'était
presque.
Au contraire la totalité plutôt.
Oui, plus que oui, vous avez raison. C'est plus que la totalité, oui, tout à fait.
Et avec le cheval qui avait changé la vie des plaines, ça permet aussi à ces peuples de devenir autre chose tout en restant ce qu'ils étaient, c'est-à-dire chasseurs, guerriers, de diversifier leur structure sociale, d'être à la fois voyageurs et sédentaires, rois des plaines, négociant avec les États-Unis, écrasant d'autres Indiens. Enfin, un peuple d'une puissance et d'une variété extraordinaire. Donc, les Américains ont bien compris que si on supprimait le bison, qui était la base spirituelle, matérielle, politique, fondamentale, on les écraserait plus facilement. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le train sur lequel on mettait des fusils mitrailleurs Hotchkiss. Et voilà, et on passait dans les plaines en tirant sur les troupeaux.
Oh là là.
Et en plus, on vendait, car ça se vendait extrêmement bien, les peaux de bison, qui était un commerce, puisque avec le Mississippi, on les descendait à la Nouvelle-Orléans, où on les remontait jusqu'à Chicago, où il y avait des abattoirs. Donc c'était à la fois business, c'était à la fois... écrasement militaire, c'était à la fois occupation des colons qui s'installaient grâce à ça, qui avaient un travail grâce à ça. Enfin, c'était une production de base.
Bon, eh bien, écoutez, nous allons continuer à parler de tout cela dans un petit instant. Nous terminons là la deuxième partie de cette émission avec, bien entendu, Joël Roskowski et Nelsia Delanoë, auteurs d'un livre absolument fabuleux que je conseille à tout le monde de se procurer, qui s'appelle « Amérique du Nord, art premier » chez Albin Michel, et c'est la traduction d'un livre écrit par Janet Berlow, Ruth Phillips. Très beau livre avec une imagologie, si j'ose dire, de première beauté. Je tombe là à l'instant sur un petit berceau indien à la page 112. Nous allons passer à la troisième partie de cette émission. Et je précise que tous nos auditeurs peuvent retrouver cette émission dans notre médiathèque et bien entendu, ils peuvent le télécharger tout à fait facilement. Merci, à tout de suite.
Jean-Luc Pinceau, le créateur de la troupe du Petit Miroir, spécialisée dans le théâtre des marionnettes chinoises, est lauréat depuis le 11 juin 2007 du prix de la Fondation franco-culturelle taïwanaise. Vous êtes amateur de théâtre, venez découvrir ce théâtre très populaire à l'origine de l'opéra chinois. Depuis le XVIe siècle, à Taïwan, les marionnettes honorent les divinités. Ce théâtre cultuel est aujourd'hui un élément fort de la culture taïwanaise. Alors installez-vous confortablement, venez écouter l'émission Point de mire et levons ensemble le rideau sur un genre théâtral qui invite au voyage. Retrouvez l'émission Point de mire, la culture taïwanaise dans le miroir des marionnettes.
J'ai le bonheur aujourd'hui de rencontrer et de m'entretenir avec deux très charmantes dames, chercheurs, Joël Roskowski et Nelsia Delanoë, qui ont traduit un livre vraiment magnifique qui fait mon bonheur et que j'ai sur, dans ma bibliothèque très privée, qui s'appelle « Amérique du Nord, art premier » chez Albin Michel, que je recommande à tous nos éditeurs, aussi bien en France qu'à l'étranger, ce que je fais très rarement. Donc, j'ai le bonheur d'être avec vous, mesdames. Alors, je crois qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, c'est le lien entre les artistes d'hier, ceux d'aujourd'hui. Comment cette métamorphose a-t-elle eu lieu ?
En fait, c'est presque miraculeux, parce que ces peuples qui étaient vaincus, ces peuples qui étaient placés dans les réserves, dans les périodes les plus sombres, je crois qu'on a parlé d'un berceau tout à l'heure, ont continué à créer. Et justement, au moment où ils étaient les plus pauvres, on voyait des berceaux absolument somptueux, tout perlés, qui étaient offerts à des femmes qui venaient d'avoir un enfant dans un dénuement absolu. Donc l'art, là, prenait une sorte de relief particulièrement admirable, si l'on peut dire, et même touchant. Et on voit donc que cette force s'est perpétuée, et peu à peu, avec les écoles, avec les missions, avec les instituts d'art, les artistes ont dû opérer une sorte de synthèse, il y a eu hybridation, mais le grand problème, c'était comment passer de l'art anonyme à l'art signé. Parce que l'idée, c'est que l'on doit créer non pas pour soi-même, mais pour sa communauté.
Au 19e, nous n'avons pas de nom d'artiste, sauf exception, s'il y en a.
Ça commence
quand, en fait, les premiers vraiment artistes?
Ça commence dans les années 1840, parce que beaucoup d'Indiens sont faits prisonniers, par exemple, et sont dans les camps ou dans des forts militaires. Quelques colonels, officiers ou agents des affaires indiennes s'intéressent à eux, à la fois par curiosité ou par amitié ou par affection, ou par... on ne sait pas trop. Et comme ils pensent que ce sont des espèces en voie de disparition, tous ces Indiens, ils essayent au fond de collecter la trace de ce qui va disparaître.
Ah, oui.
Ce sont des ethnologues sauvages, si je puis dire.
On a retrouvé des cahiers de ces...
Voilà, ils leur donnent des cahiers de comptes, ça s'appelle. Vous savez, des grands registres.
D'épiciers.
Oui. Exactement. Des registres d'épiciers où il y a la liste des commandes, je ne sais pas moi, du riz, des pâtes, des balles.
Du rhum.
Et ils leur donnent, avec des crayons, des pastels, et eux écrivent, dessinent et font des choses absolument passionnantes qui ont fait les bonheurs après de leurs descendants d'abord, des ethnologues, des historiens et des artistes aujourd'hui. Car là, il y a à la fois création, transformation, hybridation, perte d'un côté et recréation de l'autre. Il ne faut pas idéaliser, beaucoup de choses ont été perdues, bien sûr.
Dans quel musée on retrouve ce genre de documents écrits, dessinés?
Les musées locaux. Régionaux.
Les musées locaux, mais pas spécialement les grands musées.
Pas forcément.
Non.
Au contraire, les musées régionaux sont très contents d'avoir ces trésors maintenant. Et bien sûr aussi, certains de ces musées, certains de ces registres ont été restitués, là encore, à certains musées amérindiens dans les réserves, parce qu'il y avait de plus en plus de musées sur les réserves, bien sûr.
C'est tout à fait impressionnant. Alors, nous revenons à cette grande question, la métamorphose. Comment ces artistes, ces premiers artistes qui commencent à signer vers 1840, nous les retrouvons aujourd'hui au XXIe siècle, comment s'appellent-ils? Que font-ils? Je pense que les plumes commencent à disparaître au profit peut-être de la vidéo ou d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Dès la première partie du XXe siècle, on voit émerger de grands artistes. Je pense parmi les Sioux à Oscar Howe, qui se familiarise avec l'art abstrait. Et on voit le passage de, si l'on peut dire, la narration sur peau peinte et ensuite sur registre, comme on vient le dire, à quelque chose qui est une sorte de syncrèse extrêmement dynamique. Justement, je pense au mot d'énergie qui est beaucoup revenu au cours de cette émission, où on voit que, par exemple, Vassili Kandinsky peut avoir de l'influence sur Oscar Howe, qui est donc peintre Sioux dans les années 1920. Donc, grande figure de ces précurseurs, si l'on peut dire, Oscar Howe chez les Sioux, Alex Janvier également, parmi les Indiens de Chippewa, du Canada. On trouve aussi... dans les années 60, un remarquable sculpteur qui s'appelle Allen Hauser, qui peut faire penser à ceux qui sont amateurs de sculpture moderne au grand sculpteur anglais, Moore, voilà. Et donc, il y a également
des céramistes,
voilà, de talent. Tu
peux... certaines femmes, puisque on dit que c'est un peu spécialisé, les différents genres... d'art et les deux genres masculin et féminin. Il y a des céramistes dans le sud-ouest, chez les Pueblo, chez les Navajo. Non, Navajo, c'est plus des femmes qui font de la bijouterie, mais extraordinaire. Et leur production, aujourd'hui, ne peut être achetée que par des musées. Tellement elle est chère et tellement elle est exceptionnelle.
Il y a aussi donc des artistes qui s'inspirent des anciennes peintures de sable, notamment parmi les Indiens Navajo, de jeunes artistes abstraites comme Amy Whitehorse, qui est un peintre Navajo qui a exposé en Allemagne, en France, qui commence à être très connu, qui s'inspire des motifs créés par ses ancêtres, parce que les peintures, on parlait de l'art curatif tout à l'heure, ces peintures curatives sont censées remettre l'individu en harmonie avec lui-même. Et donc, lorsque quelqu'un souffre d'une maladie grave, il va s'asseoir au milieu de cette peinture, qui est une peinture éphémère, en sable coloré. Et donc, on a l'impression que si la maladie s'est introduite dans le corps d'un individu, c'est parce que tout d'un coup, il y a eu rupture d'harmonie entre lui et son environnement.
Et la nature.
Et donc maintenant, cette jeune artiste, Amy Whitehorse, donc peintre Navajo, reprend cette idée de l'harmonie, reprend cette idée de la peinture curative, mais de façon abstraite et sur des supports modernes.
Quels sont alors les supports les plus vraiment modernes, justement ?
L'acrylique, par exemple. Il peigne beaucoup en utilisant l'acrylique.
La vidéo, beaucoup de vidéos, beaucoup d'installations.
Et de vidéos et d'œuvres en vidéo vraiment de poids.
Ah oui, qui sont qu'on voit dans les festivals, qu'on voit dans les galeries, qui sont bien sûr sur les supports DVD, tout le monde a son site. Beaucoup d'installations.
Est-ce que vous avez l'impression, si vous voulez, que toutes ces œuvres maintenant, quand même, dans l'ensemble répertorié, catalogué, qui se trouve dans des musées, etc. Est-ce que vous avez l'impression que toutes ces œuvres ont permis à toutes ces sociétés ou à un certain nombre de ces sociétés, de ces tribus, anciennes tribus, de finalement se tourner vers la modernité, de revivre, vous parliez d'énergie tout à l'heure, est-ce que ce culturel leur a donné l'énergie nécessaire pour continuer à se battre et à vivre? Est-ce que c'est vraiment une des clés de leur renouveau? Ou est-ce que ma question est mal posée?
Non, au contraire, c'est dans les deux sens. C'est parce qu'ils avaient cette énergie qu'ils ont pu, malgré la perte, continuer dans l'hybridation, sans se laisser intimider par des questions comme « vous n'êtes pas authentique si vous prenez des images de Coca-Cola dans vos dessins ». Ils ont mis des images de Coca-Cola parce qu'ils les ont détournées à leur façon, ils les ont intégrées à leur façon. On a beau essayer de faire pression sur eux pour qu'ils se formatent, c'est eux qui ont fait accepter leur façon d'hybrider, de mélanger, d'inventer entre art naïf, art au contraire très sophistiqué. Bien sûr, tous les médias modernes sont à, ils les ont au bout des doigts. Ils font du travail multimédia très inventif avec musique, poésie, bande dessinée, danse, films, sculptures. Ils vont dans les grandes assemblées internationales comme Venise ou bien sûr les grands musées internationaux. Je crois que, si vous voulez, c'est un va-et-vient, une circulation.
Il faut dire, quand on regarde ce livre, ne serait-ce même que la couverture, qui est d'une rare beauté, quand on voit l'iconographie dans ce livre, c'est, dites-moi, l'éditeur, ça a dû coûter cher, hein, je veux dire, sans même vouloir rentrer dans les détails, mais connaissant un peu les livres, le tirage, le premier tirage annoncé est de combien ?
5 000, mais il a eu l'aide de la Caisse nationale des lettres.
Ah oui, oui, parce que j'imagine, parce que pour un éditeur, faire un livre pareil, qui je dois le dire, est d'un prix très, très convenable. Bon, on n'est pas là pour parler de prix, mais enfin, si, à 32 €, c'est une affaire, je vois le prix à l'arrière, c'est une affaire en or. Alors, avant de continuer encore un peu et de conclure cette émission, je veux quand même revenir à votre préface, qui est vraiment extrêmement belle. Je rappelle le titre, Porté par la beauté. Et alors, ce qui m'a, entre autres, beaucoup plu, c'est, parlez-nous un peu de ces robes de splendeur. J'ai été émerveillé par le terme, si vous voulez, les robes de splendeur. Alors, qu'est-ce que c'est, les robes de splendeur ?
Les robes de splendeur, c'était justement ces peaux de bison ou d'animal, en général le bison peinte, que portaient les grands guerriers. Et donc, un homme avait toute son histoire personnelle et une partie de l'histoire collective autour de lui pour se présenter à son auditoire. Et donc, d'une certaine façon, la splendeur même de ses exploits guerriers, parce que c'était ça à l'origine, était évidente par son costume. Et on disait justement que la beauté du costume reflétait et pouvait porter celui qui se montrait aux autres dans cet attirail, dans ce vêtement. Et en quelque sorte, on pouvait dire que toute la splendeur du courage du guerrier était exprimée dans la représentation visuelle de ce qu'il portait sur lui.
D'ailleurs, vous avez, si je peux me permettre d'ajouter, la même splendeur pour les non-guerriers, c'est-à-dire les chasseurs, par exemple. Un chasseur chassait d'autant mieux que ses vêtements, composés souvent par une femme, séduisait le gibier. Et ses propres tatouages, qui étaient aussi de l'art, et une robe de splendeur directement sur son corps, devaient aussi séduire le gibier. Donc de beauté en beauté intérieure, puis un peu entre lui et l'extérieur, puis extérieur, il arrivait à convaincre le gibier en lui demandant pardon de bien vouloir se laisser tuer.
Il y a cette fascination de l'amour et de la mort.
Oui.
Avant que de conclure en citant quelques phrases de votre magnifique préface, il y a encore une petite question que j'aimerais vous poser, ou une grande question. L'intérêt de ce livre, il est important au moment où l'on essaie de définir autrement la mission des musées d'ethnographie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Alors, on assiste à tout un débat qui entoure la création des nouveaux musées. Alors, bien entendu, nous pensons au musée du Quai Branly en France, mais il y a 2 ans, en 2004 à Washington, s'est ouvert un nouveau musée des arts amérindiens qui est extrêmement bien situé à côté du Capitole et qui repense aussi la présentation de ces objets. On assiste à la même réflexion au Canada, par exemple. Et donc, comment faut-il présenter ces objets maintenant en tant qu'émanation de culture vivante et en tant qu'expression également d'artistes qui essayent de s'inspirer tant de la tradition que de toute l'évolution de l'art contemporain. Donc, il semblerait qu'au Quai Branly, on ait souhaité mettre en évidence le fait que cet art comprend aussi des chefs-d'œuvre qui peuvent se mesurer avec les chefs-d'œuvre de notre art européen et aussi de les présenter un peu comme on les présente dans une galerie d'art, c'est-à-dire sans beaucoup de contexte historique et anthropologique. Alors la question est posée de savoir si l'objet en tant que tel peut raconter son histoire ou si peut-être on pourrait ultérieurement, puisque le musée du Quai Branly est appelé à évoluer, peut-être étoffer un peu la présentation de ces objets, de façon à ce que tout ce que l'on trouve dans ce livre, justement, d'explication, toutes ces clés qui, finalement, donnent à l'objet encore beaucoup plus de réalité et de grandeur, est-ce que peut-être le Quai Branly sera amené à compléter sa présentation ?
C'est-à-dire à pas rester à l'extérieur de l'objet, peut-être,
ah,
et à nous faire partager son parcours, à la fois historique, ethno-historique, spirituel et pour finir humain.
Bon, eh bien écoutez, je vous remercie et avant de nous séparer, je vais quand même lire les dernières phrases de votre magnifique préface qui, je le rappelle, s'appelle « Portée par la beauté ». Le rôle de l'art a une résonance particulière dans le cas des peuples colonisés, nous disent Ruth Phillips et Jeannette Berlot. Même dans les périodes les plus sombres, déportations, résistance, armée, enfermement sur les réserves, phase de déculturation, la créativité artistique a permis à des populations humiliées, vaincues, de survivre au désespoir. Quête obstinée de la beauté, la pérennité de l'art autochtone, toujours renouvelée, est aussi l'affirmation de la mémoire collective d'une extraordinaire résistance. Signé Nelsia Delanoë et Joël Rokowski, Amérique du Nord, Art Premier, chez Albin Michel. C'est vraiment l'honneur des lettres francophones que d'avoir traduit ce livre. Merci beaucoup. Je précise que cette émission peut être téléchargée dans notre médiathèque. Merci, au revoir.